point de vue. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à notre émission Point de vue, une émission, une idée originale de la Fondation En Vue, de l'Institut Nazareth et Louis Braille, en compagnie de ma collègue Diane Felice. Bonjour Diane.
Bonjour Michel.
Nous avons encore des invités de marque à notre émission Point de vue aujourd'hui. Je vous laisse le soin de nous les présenter.
On en a plusieurs aujourd'hui, Michel.
Oui.
Alors, on a le plaisir de recevoir Mme Ikram Nougira. Elle est une élève du secondaire, elle est stagiaire dans le cadre du programme Vision carrière en droit. Alors tout à l'heure, on va lui demander pourquoi le droit. Et on reçoit également M. Mathieu Guérin, qui est président et conseiller en marketing Internet chez Innomatique.
Alors bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Ikram. Monsieur Guérin, vous êtes ici à titre de mentor, il faut le spécifier, dans le cadre du programme Vision Carrière, mais vous n'étiez pas le mentor de Ikram. Alors, on veut spécifier les choses. Le mentor de Ikram n'était pas disponible pour l'émission. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que c'est important d'avoir, dans le cadre de cette émission, le côté mentoré, oui, mais aussi le côté mentor dans le cadre du programme Vision Carrière. Alors, d'entrée de jeu, Ikram, vous avez une base vision.
Exactement.
Et vous avez fait un stage en droit avec Maître Marie-Pierre Boulet, qui est avocate, dont le bureau est à Laval, entre autres. Un stage avec une avocate. Pourquoi avoir choisi un stage en droit?
Bien, premièrement, je dirais que le stage en droit, pourquoi je l'ai choisi? C'est tout d'abord parce que je trouvais que le droit était un domaine qui m'intéressait. Lorsqu'on m'a présenté les choix de carrière, j'en avais choisi plusieurs, mais le droit était vraiment celui qui m'attirait le plus. Et en faisant le stage, j'ai remarqué que c'était un métier qui n'était pas routinier, donc on n'a jamais la même chose à faire, même si, dans le fond, la base du droit est la même, mais chaque dossier est différent, chaque cas est différent. Et j'aime le fait qu'on puisse aider les gens à être en relation avec eux et être sûr que tout se passe bien pour eux. Et surtout la proximité avec les gens et le fait d'aider, parce qu'être avocat, c'est un service qu'on offre. Et ça, c'est important pour moi d'être là pour les gens et pouvoir les aider.
Comment ça fonctionne? Combien de temps vous avez été en stage particulièrement?
Donc, à la base, ce genre de stage se fait sur une semaine, donc 5 jours. Dans notre cas, pour cause de délai, je suppose, je ne me rappelle plus exactement, ça s'est passé sur 4 jours. Donc, c'est ça, 4 jours sur une semaine.
Est-ce que vous êtes allé à la cour?
Oui. Donc, durant notre stage, on devait vraiment suivre le plan de Maître Boulet. Et il arrivait fréquemment qu'elle devait se rendre à la cour, donc on l'accompagnait au palais de justice pour assister au procès.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience qui est quand même unique?
Ce qui m'a le plus marqué, donc évidemment, il y a beaucoup de choses, il y a le stage en général, mais ce que je dirais, c'est vraiment le fait d'être sur le terrain, de voir Maître Boulet en train de plaidoyer vraiment devant le juge. Ça, c'est vraiment... C'est ce qui m'a marqué le plus parce qu'on avait vraiment le sentiment de ce qui se passait. On avait vraiment une belle idée de comment ça serait d'être avocat, d'être à la cour et de plaidoyer devant un juge pour défendre sa cause.
Est-ce que les gens que vous avez suivis tout au long de votre stage, est-ce qu'il y a eu un lien particulier qui se créait? Est-ce qu'il y avait des discussions hors champ, comme on peut dire?
Tout à fait. En dehors du plan professionnel, si je peux dire, lorsqu'on était avec Maître Boulet à la cour, on avait des moments où est-ce qu'on pouvait se parler comme entre nous parce qu'on était deux à faire le stage. Et donc, on avait vraiment des conversations qui portaient pas nécessairement sur le droit, mais qui portaient plus sur nos vies, ce qu'on aime. Et ça, je trouve que ça a vraiment créé un lien fort entre nous au fil des jours. Plus les jours avançaient, plus on sentait qu'on était tous proches et c'était vraiment bien.
D'ailleurs, Diane, j'ai eu l'occasion de parler à Maître Boulet qui m'a parlé de son expérience et pour elle, c'était une expérience totalement riche. Et justement, on va aller voir maintenant du côté du mentor avec M. Guérin. Vous avez eu en stage le jeune Samuel.
Oui, effectivement.
Quel était son stage?
En fait, j'ai reçu une demande de Mme Legault de Relève Montréal et me demandant de recevoir une personne avec une déficience visuelle, mais qui avait une personne secondaire, donc, mais qui avait un intérêt pour l'informatique. Étant de nous de la Rive-Nord, l'entreprise de la Rive-Nord, Samuel était aussi de la Rive-Nord. Les stratégies, pas les stratégies, mais en fait, le travail que recherchait un peu Samuel était très large en vu que c'était informatique. Nous, on était spécialisés surtout en marketing Internet, donc développement de sites web. Mais on a essayé de faire en sorte que Samuel touche à plusieurs aspects au niveau de l'informatique, malgré ça. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Samuel de faire un petit site web et aussi développer un petit jeu vidéo qui n'est pas dans notre habituel dans notre dans l'entreprise. Par contre, Samuel a apprécié beaucoup là, cette partie-là là, de son stage.
Combien de temps vous l'avez reçu, Samuel?
Samuel a été reçu à l'entreprise une semaine. Donc, mais c'était réparti sur... Je pense qu'on l'a fait réparti sur 3 semaines, puis c'était un peu des conflits d'horaires. Mais au total, ça donnait l'équivalent d'une semaine de stage.
Comment vous avez vécu cette expérience?
Bien, c'était une expérience très positive, premièrement. Positive pour Samuel aussi. Donc, c'est sûr qu'au départ, on se dit, bon, est-ce que Samuel va être apte à bien intégrer nos locaux? Est-ce qu'il y avait des demandes particulières? Puis, en fait, la plus grosse demande qu'il avait, c'était au niveau de son naturellement, de l'écran pour son ordinateur. Mais Samuel avait déjà son portable. Donc, il est venu en milieu de travail avec son appareil. Je crois que l'écran est ajusté là, à un certain niveau pour qu'il puisse bien voir
Il était en basse vision.
Oui, exactement.
Samuel était en basse vision.
Exactement, exactement. Et il y avait aussi l'aspect au niveau de l'éclairage. Donc, de mémoire, je crois qu'il il devait avoir un éclairage qui n'était pas trop accentué. Donc, mais dans notre cas, c'était parfait. On était... c'est un bureau qui est très ensoleillé par les vitres. Donc, une lumière naturelle. Donc, à ce niveau-là, ça ne causait pas de problème.
Pourquoi avoir eu cette ouverture? Vous êtes-vous posé la question? On vous appelle, Vision Carrière vous appelle, on a un jeune en basse vision qui désire faire un stage. En tant que chef d'entreprise, comment on reçoit cette demande?
Bonne question. En fait, on se dit, pourquoi pas donner la chance à quelqu'un? Samuel était quelqu'un qui étudiait au niveau secondaire. Donc, ça permettait un peu... de lui permettre de savoir un peu plus vers où il voulait s'orienter.
S'orienter, oui.
Exactement. Et je trouvais ça... en fait, je trouvais la cause formidable. Puis on avait aussi la capacité de recevoir... on a l'habitude de recevoir des stagiaires, mais là, ça nous donnait une opportunité aussi. On était entre deux, si on veut, donc pour bien recevoir Samuel, puis bien le guider.
Au quotidien, qu'est-ce que vous avez eu besoin de transformer ou de changer pour faciliter cette intégration?
En fait, pas grand-chose, en fait. Donc, Samuel, on avait déjà un poste, mais comme je vous disais, là, il est arrivé avec son portable. C'est sûr qu'on, moi et un autre de mes employés, on a dû le guider un peu, lui donner quelques tâches. Mais malgré tout ça, Samuel était une personne très créative. Donc, il a su, comme d'ailleurs pour le développement du site web, je lui ai demandé de peut-être composer sur un sujet qu'il aimait. Donc, il aimait beaucoup la musique. Donc, il a décrit quelques pages en musique. Mais ça demandait... En fait, il était libre de créer ce qu'il voulait. Donc, j'avais pas besoin d'être tout le temps à ses côtés pour voir ce qu'il fait. Donc, on lui a réservé un espace sur le serveur, acheté un nom de domaine pour lui. Il a développé son site web. Même chose pour le jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo, il est... en fait, Gabriel, qui est un des employés chez Innomatic, l'a beaucoup guidé, parce que lui, c'était un passionné aussi de jeux vidéo. Donc, il l'a beaucoup guidé sur les éléments de base pour développer un jeu vidéo. Il a installé un logiciel particulier qu'il a probablement gardé et continué à utiliser, d'ailleurs.
Est-ce que ça a changé votre vision de cette clientèle d'une certaine façon? Parce que vous aviez certainement des anticipations ou des croyances.
Ben oui.
Hein? Alors, qu'est-ce que ça a transformé dans votre façon de voir les choses?
Bien, en fait, ça m'a permis en fait de constater que les personnes pouvaient réaliser les tâches qu'on lui demandait très bien même. Je pense que ça a donné confiance aussi à Samuel. Bien, c'était un premier test en fait en milieu de travail. Il était quand même tout jeune.
Et il avait quel âge, pardon? Quel âge il avait?
Je crois qu'il était en secondaire 4 ou 5.
OK. Mm-hmm.
Et donc, une certaine confiance en lui, puis aussi une certaine confiance sur vers quoi il voulait se diriger par la suite. Donc, les deux parties en sont gagnants.
Vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose.
Exact. Exactement.
Et est-ce que vous... qu'est-ce que vous dites à un chef d'entreprise qui a cette opportunité d'avoir un stage pour le convaincre de dire oui, fais-le, ça vaut la peine?
Ben, moi, je dirais que que recevoir une personne en déficience ou une personne normale, si on veut, mm-hmm. C'est en fait, ça demande pas...
Ça vous demande pas trop de temps.
Ça ne demande pas trop de temps, mais c'est pas... je le dis au niveau de l'adaptation.
Oui.
Donc, l'adaptation au travail. Donc... ils vont en sortir gagnants là, à ce niveau-là parce qu'il faut donner la chance.
Le lien que vous avez créé avec Samuel, est-ce qu'il vous rappelle de temps à autre?
J'ai reçu des nouvelles de lui peut-être quatre semaines après le stage pour justement me dire qu'il savait vers quoi maintenant s'orienter pour les études là, collégiales.
Justement, en parlant de... Je fais un petit peu de pouce, Mme Felice, sur votre question avec Ikram. Est-ce que ça vous a donné l'idée de devenir avocate?
Oui, le fait d'avoir eu l'opportunité de faire le stage, ça m'a vraiment donné le goût et la motivation de devenir avocate et ça m'a permis de confirmer ce que je pensais qui est le fait de vouloir poursuivre des études en droit prochainement, plus tard à l'université.
Parce que là, vous êtes en secondaire 4?
Secondaire 5.
Secondaire 5?
Oui.
J'ai compris tout à l'heure que vous étiez quelques personnes à faire le stage en même temps que vous.
En fait, on était deux. Mm-hmm. Il y avait moi et Alex, qui était un autre...
Un autre stagiaire.
Oui, exactement, ouais. Un autre stagiaire. Donc, on était deux à faire le stage avec Maître Boulet.
Et est-ce que votre collègue stagiaire était également en basse vision?
Oui.
Et lui, est-ce que... vous ne pouvez pas parler pour lui, bien sûr, mais est-ce que vous pensez qu'il a eu le goût, lui aussi, de cette carrière?
Je pense que oui. Comme vous l'avez dit, je ne peux pas parler pour lui parce que je ne sais pas ce qu'Alex pense. Mais ce que je peux vous dire en général, c'est que je sais qu'il a vraiment apprécié le stage et qu'au final, je pense que ça l'a aussi aidé à savoir qu'est-ce qu'il veut faire plus tard.
Alors, on va faire une petite pause et on est de retour avec nos invités un petit peu plus tard. Mais nous aurons, bien entendu, notre invité de la semaine, une employée. Le membre du personnel de l'Institut qui sera avec nous pour nous parler justement du secteur enfance-jeunesse. À tout de suite! Vous êtes toujours à Canal M, à l'émission Point de vue, et nous recevons maintenant notre partie de membres du personnel de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et nous recevons aujourd'hui Mme Nathalie Thibault, qui est psychoéducatrice au secteur enfance-jeunesse de l'INLB. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Mme Thibault, quelle est la mission du centre du service enfance-jeunesse?
En fond, c'est de favoriser la pleine participation sociale des usagers, donc de leur offrir de la réadaptation qui va leur permettre de bien fonctionner dans les différents milieux de vie, qui va les aider à réaliser leur plein potentiel pour qu'ils deviennent des adultes accomplis là, quand ils seront un peu plus vieux. Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec différents partenaires, les services de garde, parce qu'on les a à partir de tout jeune âge, hein. On a les 0 à 24 ans, donc différents partenaires, les écoles aussi quand ils entrent à l'école, les différents services sociaux qu'il y a autour du jeune aussi, des fois les CLSC, des fois les centres jeunesse, des fois aussi d'autres centres de réadaptation quand ils ont d'autres déficiences, et évidemment, les plus importants, les parents et les usagers en tant que tels. Donc, on travaille tout au long de la vie de l'enfant, parce qu'ils vivent différentes phases. Ils sont en plein développement, donc on les accompagne tout au long de leur développement.
Ce qui est extraordinaire, et vous l'avez souligné, c'est qu'effectivement, vous les accompagnez toute la vie, finalement. Dans votre département, jusqu'à 24 ans, mais
oui.
L'Institut accompagne l'âge zéro toute la
oui.
vie.
Oui, jusqu'à leur mort, dans le fond, toute la vie, parce qu'il y a le programme enfance-jeunesse qui est pour les 0-24 ans. Ensuite, il y a le programme adulte qui prend la relève à partir de 25 ans jusqu'à 64 ans. Puis par la suite, il y a le programme aîné qui les prend en charge dès qu'ils ont 65 ans.
Quels sont justement les services offerts par le secteur enfance-jeunesse?
Il y a plusieurs services offerts. Donc, il y a des spécialistes en orientation mobilité qui vont aider toute la mobilité des enfants. Dès qu'ils apprennent à marcher, donc ils ont à apprendre, surtout ceux qui sont en cécité, ils ont à apprendre à se protéger. Donc, les spécialistes en orientation mobilité vont les aider. Quand ils ont à entrer dans une nouvelle école ou dans un nouvel endroit, ils ont à se familiariser avec les locaux. Donc, nos spécialistes en orientation mobilité vont s'assurer qu'ils sont familiarisés là, avec les nouveaux locaux. Donc, ils font beaucoup de développement au niveau des enfants.
Je comprends que ce service-là intervient aussi dès le début, lorsque l'enfant commence à marcher.
Tout à fait, oui. On a des spécialistes là, qui sont formés vraiment pour les tout-petits.
Ça doit être quand même spécial parce que les tout-petits ne parlent pas encore. Vraiment?
Non, effectivement. Mmh. C'est une particularité, là.
Mais oui.
Spécial. On a aussi des spécialistes en réadaptation à déficience visuelle. Donc, eux vont faire différentes parties. Il y a toute la communication informatique qui, c'est plus quand ils sont un petit peu plus vieux, quand ils entrent à l'école. Donc, ils vont faire toutes les adaptations qu'ils ont besoin à l'école également. Il y a aussi des spécialistes qui s'occupent plus de la partie qu'on appelle les AVD, les AVQ, les activités vie domestique, activités vie quotidienne. Donc, quand ils veulent apprendre à cuisiner, quand ils veulent apprendre à faire le ménage, tout ça, il y a des façons de le faire pour s'assurer que malgré la vision, on puisse bien le faire. Donc, ils accompagnent les jeunes dans ces choses-là, apprendre à se raser, apprendre à se maquiller. C'est tous des trucs, des spécificités que les gens peuvent, nos spécialistes peuvent leur enseigner. Il y a aussi toute une équipe psychosociale qui est là. Il y a une technicienne en éducation spécialisée. Il y a aussi une psychologue, une neuropsychologue. Il y a des travailleurs sociaux et il y a la psychoéducatrice, moi. Et on a aussi des ergothérapeutes. Donc, c'est toute une équipe.
Qu'est-ce que ça fait, une psychoéducatrice?
Une psychoéducatrice, ça fait plusieurs choses. j'accompagne beaucoup les parents pour les aider à accompagner leurs enfants. Donc, quand on a une déficience visuelle, des fois, il y a des choses particulières pour élever les enfants. Donc, je les aide à ce niveau-là. Toutes les habiletés parentales, dans le fond. Ensuite, j'aide aussi au niveau du développement des habiletés sociales des enfants, comment on se fait des amis, comment on les conserve, c'est quoi les particularités, comment on peut approcher quelqu'un, comment on peut signifier à la personne, de lui dire, dans le fond, de dire à l'enfant, de dire à l'autre personne, si tu t'en vas, dis-le-moi pour pas que je continue à parler dans le vide. Des choses comme ça, donc différents trucs au niveau des habiletés sociales que je développe avec eux. Je soutiens aussi les différents acteurs là, qui gravitent autour de la vie de l'enfant, donc je les ai un petit peu nommés tout à l'heure. Donc, au niveau des habiletés sociales et des habiletés pour offrir un développement potentiel aux enfants. J'accompagne les enfants aussi pour qu'ils soient capables de s'adapter aux différentes transitions, parce qu'ils vivent souvent des transitions, hein, quand ils entrent à la maternelle, même quand ils entrent à la garderie, quand ils entrent au secondaire, quand ils entrent au cégep, l'université. Donc
des étapes de vie.
Des étapes de vie, dans le fond. Ils vivent beaucoup, beaucoup de transitions, nos petits. Donc, c'est pour les accompagner à ce niveau-là. Je fais aussi des projets particuliers pour la clientèle un peu plus vieux. Donc, le projet Vision Carrière, dont vous avez parlé tout à l'heure avec Ikram et monsieur, le mentor. Puis, je fais aussi un autre projet sur l'autonomie pour les préparer à la vie en appartement. Donc, on développe différentes choses là, pour pour qu'ils soient prêts à s'en aller en appartement, dans le fond.
Vous dites que vous travaillez dans le programme Vision Carrière. Qu'est-ce que c'est votre rôle exactement dans ce programme?
Moi, je suis la personne ressource à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Donc, je suis là pour développer toutes les compétences de pré-employabilité, les compétences qu'on appelle les compétences génériques avec les jeunes. Je participe à toutes les rencontres. On fait des rencontres avant le projet avec eux. Donc, je participe à ces rencontres-là. J'anime ces rencontres-là. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je les accompagne quand ils rencontrent le mentor. Je m'assure qu'ils ont toutes les adaptations dont ils ont besoin. Je coordonne les interventions pour qu'il y ait toutes les adaptations dont ils ont besoin là, quand ils entrent en stage.
Vous avez certainement fait des rencontres impressionnantes au fil du temps. Vous voulez nous donner quelques exemples?
Mais j'ai rencontré toutes sortes de jeunes. J'ai un jeune en particulier que j'ai commencé à voir au secondaire. Il était dans une école spéciale. Après ça, il a transité dans une école régulière au secondaire. Donc, toute son intégration, je le trouvais très fascinant, très fonceur, je dirais. Ensuite, son entrée au cégep, puis son entrée sur le marché du travail. Donc, il y a plein de gens comme ça qui sont pleins de résilience, qui foncent dans la vie. Et c'est ce qui m'impressionne le plus de ces jeunes-là.
Qu'est-ce qui, dans votre métier, ça fait longtemps que vous le pratiquez,
métier? Comme psychoéducatrice, oui, ça fait très longtemps.
on donnera pas d'années.
Non, c'est ça. Mais à l'Institut, ça fait 8 ans.
Ça fait 8 ans à l'Institut. Oui. Qu'est-ce qui vous stimule le matin pour aller travailler? C'est parce que ce que je constate, moi, qui est dans l'édifice de l'Institut, la fondation est dans l'édifice, on voit les gens sont dédiés. Le personnel est dédié et présent. C'est assez hallucinant de voir comment les gens sont dédiés dans leur profession. Quand vous vous levez le matin, vous êtes stimulé pour aller au travail. Qu'est-ce qui vous stimule encore après 8 ans?
Les usagers, la clientèle, vraiment. Je trouve que c'est des gens passionnants parce qu'ils continuent à foncer malgré leur déficience visuelle. Ils font preuve d'une résilience incroyable. Je les trouve hyper intéressants à jaser avec eux autres. Ils ont toujours quelque chose à raconter. Ils sont vraiment stimulants. C'est la clientèle qui me...
Donc, il y a comme un retour.
Oui, il y a un grand
retour. De
cette
stimulation-là.
Oui, vraiment.
Il doit y avoir quelque chose de spécial aussi du fait de connaître un enfant quand il est plus jeune. Comme là, ça fait 8 ans que vous êtes là,
oui,
donc vous grandissez avec
grandir.
Les personnes.
Oui. Récemment, j'avais une petite bonne femme qui entrait à l'école, à la maternelle, puis je me disais, je l'ai eue quand elle avait 9 mois, fait que, waouh, elle est rendue à l'école, c'est incroyable, là, tu sais, elle a réussi à arrêter de faire des crises épouvantables à sa maman, tu sais, puis elle a passé, on a réussi à travailler ça pour que la maman l'encadre bien, elle avait des difficultés particulières, tout ça, et là, elle est rendue à l'école et elle va super bien, fait que, oui, c'est le fun de les voir grandir, de les accompagner, de les voir grandir.
Vous voyez l'aboutissement concret, hein?
Oui.
Des interventions que vous faites.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Au début de l'entrevue, vous avez parlé que le service enfant-jeunesse travaille à apporter aux enfants une pleine participation sociale.
Oui.
Donc, ce n'est pas parce que l'enfant vit avec une déficience visuelle qu'il ne pourra pas être participant dans notre société. Et vous le faites dès le départ, dès le jeune âge.
Oui, on le fait dès tu sais, pour qu'ils se sentent bien à la garderie, qu'ils se sentent intégrés, qu'ils se sentent bien à l'école aussi, qu'ils se sentent intégrés, qu'ils sentent qu'ils font partie du milieu à part entière, qu'ils sont, malgré leurs différences, qu'ils sont quand même inclus avec les autres participants. La même chose quand ils sont au cégep, à l'université. Donc, c'est des gens qui sont capables de faire des études comme d'autres gens et qui vont pouvoir aller travailler plus tard. Là. C'est vraiment notre but.
On sait que les jeunes sont très techno.
Oui.
Est-ce que vous avez vu, depuis 8 ans que vous êtes à l'Institut, avez-vous vu des changements dans votre pratique en regard de la technologie, particulièrement avec les adolescents?
Oui, ils sont très bons. Je pense que ça les aide d'avoir de la technologie. Donc, bon, il y a des logiciels qui peuvent lire les pages web, qui peuvent lire ce qu'il y a à l'écran. Donc, ça, c'est très aidant. Au niveau des études, c'est très aidant aussi. Et puis, ils sont capables de naviguer sur leur téléphone en mode sonore, pas de problème. Eux aussi, ils textent leurs amis et c'est comme les autres ados, là, tu sais. Ils sont... Oui, la technologie aide beaucoup.
Ils sont complètement autonomes de ce côté-là.
Ah, tout à fait.
Bon, oui. Écoutez, Mme Thibault, Nathalie Thibault, psychoéducatrice au secteur enfants-jeunesse de l'Institut, merci d'être venue à notre émission.
Ça m'a fait plaisir.
À très bientôt. On fait merci. Une pause et on est de retour à l'émission Point de vue. Notre marraine de la Fondation En Vue, Mme Pauline Martin, bonjour.
Bonjour, M. le directeur général.
Et je suis votre neveu. Vous êtes ma marraine, donc je
ben
suis votre
oui,
neveu.
Ben oui, c'est vrai, nephew. You're my nephew.
Pauline, le 1er oui. juillet s'en vient.
Oui.
Il y a beaucoup de déménagements, c'est le sport national des Québécois.
Oui.
Et pour les personnes en déficience visuelle, ben c'est un défi que de déménager. Alors, on a sûrement quelques petits conseils à leur donner.
Oui, mais c'est un défi de choix. En fait, de trouver l'espace dans lequel on va être à la fois sécurisé, bien, et qu'on va pouvoir bien, dans lequel on va pouvoir bien se guider. Mais nos capsules, toujours, Michel, s'adressent autant aux personnes qui ont le problème de la déficience visuelle que l'entourage. Parce que c'est souvent aussi, on va aider hein, nos parents, nos proches,
c'est
nos amis.
C'est important de le spécifier, effectivement.
C'est important. Nous autres, on le répète souvent, mais c'est vrai. Demandez-le. Oui. Les gens, ça leur fait plaisir de vous aider. Alors, on a mis une série de choses à regarder, mais c'est sûr que c'est dans un monde idéal. Faites-vous la priorité pour vous. Qu'est-ce qui est prioritaire pour votre sécurité? Et si vous trouvez tout, tant mieux. On va être très heureux. Mais regardons les points qui sont importants. Les trottoirs. On s'entend que les trottoirs, s'il n'y en a pas, c'est extrêmement difficile parce que la personne qui a une déficience visuelle a besoin de repères clairs. Alors, s'il n'y a pas de trottoir, il n'a pas de repère clair. Il suffit que quelqu'un mette sa poubelle un peu en avant. Là, on s'en va vers... C'est vraiment un monde inconnu. Alors, essayez de favoriser effectivement les trottoirs ou à tout le moins qu'il y en ait proche. Là, tu peux toujours faire un petit bout, pas de trottoir, mais ça
on
en prend bientôt.
On parle ici de l'environnement résidentiel.
Bien, évidemment, oui. Je pensais qu'on s'en allait directement là parce qu'on parlait du déménagement. Mais évidemment, sur votre lieu de travail, vous avez sans doute déjà... tout fait ce repérage-là. Alors, les arrêts et les feux de circulation, c'est important. parce que ça aussi, ça vous donne infiniment plus d'informations, c'est plus sécurisant que d'être, par exemple, on essaie d'éviter les carrefours giratoires, parce que là, les repères sont vraiment difficiles à trouver. C'est sûr que ça va vous aider si vous avez des services à proximité. On parle d'autonomie souvent, nous. Alors, si vous avez la chance de trouver un environnement où vous savez que votre épicerie est à tant de minutes de marche, que la pharmacie est à tant de minutes de marche, voir aussi les services que votre pharmacien peut vous offrir. Encore une fois, demander le dépanneur, avoir un parc. Aller s'asseoir sur un banc de parc, c'est le fun aussi. Tout le monde aimerait ça, avoir un parc. Mais si, dans votre condition, il est facile d'accès, on est heureux. L'école, la garderie, évidemment, pour les besoins, selon les besoins. L'arrêt d'autobus avec des arrêts fréquents, parce que c'est pas le fun de rester 25 minutes, 30 minutes sur le coin de la rue à se demander, là, est-ce que je l'ai manqué? Non. S'il y a des arrêts fréquents, on va beaucoup mieux se repérer. Station de métro, évidemment, puisque le métro est tellement bien équipé pour les personnes qui sont en déficience visuelle, puis il y a beaucoup d'adaptation qui est faite par nos spécialistes de l'INLB. Pour ceux qui en ont besoin, une église, l'accessibilité aux loisirs aussi. Et il ne faut pas se gêner d'aller les voir, les gens qui administrent ces loisirs-là, leur demander quel service vous offrez pour des personnes comme moi, la banque, évidemment, la clinique médicale. Bien là, hein, pas besoin de s'étendre sur les besoins qu'on en a parfois. Et comme on se disait, bien, de favoriser un temps de déplacement qui est raisonnable, ça dépend aussi, il faut tenir compte de notre condition physique. Là, si on parle du bâtiment comme tel, on cherche un logement, on est à l'étage. Une entrée facile à repérer à partir du trottoir public. Tu sais, l'espèce de flou, on ne sait pas trop par où il faut passer pour atteindre l'entrée. On essaie d'éviter. D'ailleurs, il y en a souvent des édifices publics qui vont avoir des pauvres fleurs, ils vont avoir des petites ornementations. Servons-nous-en. Le trottoir d'accès à l'édifice, bien évidemment, c'est plus pratique que d'avoir, par exemple, du gravier ou des choses comme ça. Ils sont beaucoup plus difficiles à contrôler. La main courante dans les escaliers. Si on peut être plein pied, on s'évite, évidemment, d'autres informations à aller chercher. Un éclairage suffisant, ça, on le répétera non plus jamais assez. La boîte aux lettres aussi, il faut qu'elle soit accessible. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué pour vous. Et très important, que le service de déneigement de l'entrée de votre immeuble soit fait. Parce qu'on n'a pas envie de vous voir partir dans deux pieds de neige le matin. C'est plus difficile de se démêler dans ce temps-là. Alors, on essaie aussi d'éviter, on en parlait, les bretelles d'accès. Tu sais, quand il y a des accès pour les automobiles qui sont mal définis, c'est des stationnements avec des 3-4 entrées de stationnement larges, mal définies. On essaie d'éviter ça parce que c'est toujours un risque.
Voie ferrée.
On essaie d'éviter, bien évidemment. On a parlé aussi, il y a les routes rurales. Bon, c'est le fun d'aller à la campagne, mais vérifiez que vous aurez des repères suffisants. Si vous n'êtes pas dans le milieu urbain qui comporte en général beaucoup plus de repères, bien, si vous êtes en milieu rural, essayez de ne pas être au moins près d'une route qui est très, très difficile à traverser. Vous allez vous vraiment avoir trop de difficultés. La piste cyclable à traverser, on le sait. Nous autres, les automobilistes, en général, on le sait que le cycliste, dans le bonheur de ses cheveux au vent, au soleil, parfois, il ne nous verra peut-être pas, puis il va peut-être effectivement être aveuglé. Alors, soyons prudents, essayons d'éviter, si possible, les pistes cyclables, ou en tout cas, bien l'identifier. Évidemment, on a déjà parlé, mais répétons-le, les choses intérieures, c'est-à-dire à l'intérieur de l'appartement. On a parlé l'autre fois, toi et moi, des bandes avertissantes, les escaliers, des bandes fluorescentes pour bien nous définir la hauteur des marches, combien il y en a, une main courante aussi.
Je vous propose, chère Pauline, qu'on revienne là-dessus la semaine prochaine.
J'ai pas déjà épuisé mon temps.
Déjà, c'est déjà terminé. Alors, on reparle de tout ça la semaine prochaine. On va parler déménagement, mais intérieur.
Je serai là.
Merci. De retour à notre émission Point de vue sur les ondes de Canal M en compagnie de Mme Diane Felice. Nos invités d'aujourd'hui, Ikram Nougira, qui était stagiaire dans un bureau d'avocat, et un mentor, M. Mathieu Guérin, qui mentorait Samuel dans le secteur justement de l'informatique. Et je suis curieux, M. Guérin, de connaître la réaction de vos collègues. Quand vous avez reçu Samuel pendant une semaine, quelle était la réaction des collègues?
Bien, en fait, ça s'est très bien passé. En fait, les collègues ont été, chacun d'entre eux a donné même un peu de temps à Samuel, là, justement, parce que Samuel n'avait aucune notion, par exemple, de la programmation web. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que au cours de la semaine, ben, on allait lui donner quelques trucs de programmation, quelques conseils. Et ce qui est le fun avec le web, c'est qu'il fait les modifications et après ça, déplace le fichier sur le serveur. Il peut voir instantanément le résultat là, de ce qu'il vient de programmer. Donc, à ce niveau-là, il y a eu un travail, en fait, collaboratif là, de la part des employés. Et comme je mentionnais tantôt, il y a Gabriel qui a joué une grande partie aussi pour ce qui est de la partie du jeu vidéo. Donc, parce que c'est lui-même qui a pris l'initiative là, d'amener le logiciel, de le présenter, de s'asseoir avec lui, puis de lui montrer les fonctions de base là, d'un avancer, reculer un bonhomme, insérer une image, l'aspect 3D. Donc, non, je pense que cet aspect-là, ça a très bien été.
Ça a été très mobilisateur, hein, je me rends compte.
Oui, effectivement. Effectivement.
Et quand vous avez accepté là, d'être mentor pour une personne, un jeune, le programme Vision Carrière, j'imagine qu'ils ne vous ont pas laissé toute seule comme ça. J'ose espérer que vous avez eu un certain encadrement.
Une très bonne, en fait. Avant même le stage, donc j'ai eu une présentation de Samuel, de ce qu'il y avait de besoin, de qu'est-ce qu'il aime. On connaissait l'intérêt pour l'informatique, mais un peu plus vers quoi il voulait s'enligner, l'environnement de travail. Et j'ai eu aussi l'aide du parent aussi. Alors, parce que là, il y avait un voyagement à faire, un transport, donc c'est le parent qui s'occupait d'amener Samuel le matin et de le reprendre le soir.
Avez-vous eu justement des commentaires des parents à la suite du stage?
Non, malheureusement, mais je pense que positif pour eux aussi.
Quand ils vous ont présenté Samuel, est-ce qu'ils vous ont parlé également de sa personnalité, de ce qui marchait bien avec lui, ou c'était vraiment de façon plus générale?
De mémoire, c'était quand même assez général. Je me souviens d'avoir eu une rencontre avant le stage avec Samuel, donc présenter à l'équipe, présenter l'environnement de travail. Voilà, donc...
Les choses ne sont... Il n'y a pas d'improvisation qui se fait. Les choses sont bien structurées, c'est bien organisées.
Exactement, c'est très bien organisé. Oui. Puis on s'est encadré aussi. On sait que les personnes ont un support, que ce soit téléphonique ou par courriel, mais il y a des suivis aussi qui sont faits. Alors, il ne faut pas s'inquiéter.
Vous n'êtes pas laissé à vous-même.
Non.
Puis à la fin du stage, vous avez un suivi à faire particulier?
Oui,
des
en fait, on a un document assez simple à remplir sur... comment, dans le fond, Samuel a évolué à l'intérieur du stage, est-ce qu'il était ponctuel, est-ce qu'il semblait répondre, pas répondre, mais réaliser les tâches, ces choses-là. Oui, un petit rapport à faire, mais ça s'est très bien passé.
Avez-vous le sentiment d'avoir fait une différence dans sa vie?
Je crois que oui. Oui. Justement, puisque j'ai justement eu un retour de la part de Samuel après le stage pour me dire merci beaucoup, j'ai apprécié, je sais vers quoi m'aligner maintenant, m'orienter.
Donc, c'est pas impossible que Montréal Relève, Vision Carrière, fasse appel à vos à votre temps pour les prochaines années.
Et tant mieux, et ça va être un plaisir à nouveau.
Ikram, après ce stage dans le milieu du droit, les visites dans les cours de justice et tout ça, est-ce que l'accès au travail pour vous à 17 ans, c'est tout à fait possible? Comment on envisage l'avenir?
Ce que je dirais pour répondre à cette question, c'est comment envisager l'avenir? C'est plus de pas être stressée, si je peux dire. Dans le fond, c'est comme si le stage que j'ai fait m'a permis d'avoir confiance en moi, si je peux dire, en ce qui concerne le milieu du travail, et de me dire, bon, t'es capable de le faire, ça va pas être quelque chose de trop compliqué, même si c'est une grosse étape d'entrer dans le milieu du travail, mais qu'au final, c'est quelque chose que je suis capable de faire et que éventuellement ça se passera aussi bien que lorsque ça s'est passé durant le stage. Et j'ai eu la chance de voir, admettons, si j'avais besoin d'adaptation ou s'il y avait quelque chose qu'il fallait améliorer ou changer. Et donc, je pense que ça pourra définitivement me servir pour l'entrée sur le marché du travail plus tard.
Alors, je comprends que ça vous laisse une expérience concrète sur laquelle vous raccrochez, hein, pour vous rassurer de la suite des choses.
Tout à fait.
J'imagine que vous avez du soutien aussi de votre famille, des gens qui vous entourent dans toute cette expérience, dans toutes ces adaptations.
Oui, oui, vraiment, tout le monde, comme vous l'avez dit, les gens qui m'entourent, que ce soit mes parents, même mes sœurs, l'équipe de Montréal Relève, l'Institut Nazareth et Louis Braille, tout le monde était vraiment là pour être sûr que tout se passe bien et pour être sûr que j'ai tout le service dont j'ai besoin pour rendre cette expérience mémorable et vraiment bien pour tous.
Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous inquiètent dans l'arrivée au cégep?
Honnêtement, oui et non. Donc, comme je l'ai dit au début, je suis en secondaire 5, donc je finis l'étape de secondaire cette année. Je rentre au cégep l'an prochain. Et j'ai pas vraiment d'inquiétude, mis à part le fait que c'est une autre étape et qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, que les cours seront différents, que le mode de vie scolaire, si je peux dire, va être complètement différent. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment hâte d'y aller. Je suis sûre que ce sera une expérience tout aussi enrichissante que ce que le secondaire aurait été.
Vous abordez l'avenir avec une grande sagesse.
Ah. Merci. Ben, j'essaye.
Beaucoup de sérénité. Vous êtes à l'école Jeanne-Mance présentement?
Oui.
Et comment ça se passe à l'école?
Ah, ça se passe super bien. J'ai fait tout mon secondaire là, donc depuis secondaire 1 jusqu'à aujourd'hui. Et honnêtement, ça se passe super bien, que ce soit les élèves ou le personnel, la direction. Les gens sont vraiment super. Ils sont aidants même. Ils sont vraiment... comment puis-je dire? Ils sont vraiment... c'est ça, ils sont vraiment...
Ils sont bienveillants.
Oui, exactement. C'est le mot que je cherchais. Et non, c'est vraiment une belle école et c'est un bel entourage. Et je suis contente d'aller là-bas.
Vous nous avez apporté une pièce musicale.
Oui,
et tout à fait. Bien entendu, Diane, j'ai regardé ce que c'était, hein, parce qu'une jeune ado qui nous apporte de la musique, on ne sait jamais
ça
ce
vous
que...
Ça vous fait peur, ça, Michel?
Ben, à mon âge, des fois, on peut avoir un peu peur. Alors, c'est une pièce de Michael Jackson.
Oui, exactement. c'est une chanson de Michael Jackson qui s'appelle « Heal the World ». Et oui.
Et pourquoi cette pièce?
En fait, cette pièce... Bien, plusieurs raisons, en fait. Donc, moi, déjà, si je peux juste dire, à la base, je connaissais pas vraiment cette chanson de Michael Jackson. Je connaissais plus ses titres populaires comme Thriller, par exemple. Et c'est ma mère, en fait, qui m'a fait découvrir cette chanson, Heal the World. Et lorsque je l'ai écoutée, j'ai trouvé ça vraiment beau, que ce soit la musique, l'instrumental, les paroles... c'est vraiment une belle chanson qui livre vraiment un message de paix et comme quoi que le monde devrait être un monde meilleur sans guerre et que les différences, c'est pas vraiment des différences, c'est qu'on est tous pareils et que les gens devraient arrêter de tous avoir des préjugés et de se dire « Ah, toi, t'es différent » parce qu'au final, on est tous des humains, on est tous pareils puis il veut vraiment livrer un message que... De paix, d'amour, d'union, et voilà pourquoi j'ai choisi.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place it was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing. If you care.
Vous êtes au Canal M à l'émission Point de vue. Merci beaucoup, Ekram, de nous avoir apporté cette belle pièce.
Ça me fait plaisir.
Nous étions tous de la valeur, avec les mains dans les airs. Et merci infiniment. Monsieur Guérin, je voudrais terminer avec vous. Ce que j'entends dans le stage que Samuel a fait, au niveau de l'accessibilité à l'emploi, le web est une ouverture, une porte intéressante pour les gens qui vivent avec une déficience visuelle, pour le travail.
Oui, absolument. En fait, si je prends l'exemple de Samuel, qui avait une déficience visuelle assez légère, c'était en fait, c'est un ajustement d'écran que Windows offre déjà. Donc, si on considère que dans la majeure partie des bureaux, soit les produits Windows ou Apple, donc c'est des options qui existent déjà. Donc, ça permet de faciliter beaucoup, justement, l'intégration au travail des personnes en déficience visuelle. Et il arrive à faire la même tâche qu'une personne qui a une vision normale.
Donc, et vous qui êtes un spécialiste du web, j'imagine que c'est en croissance, tout ça, toutes les nouvelles technologies, les nouvelles interfaces. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent au niveau de la recherche.
Oui, si on considère tout le développement pour les applications pour mobile, par exemple. Donc ça, c'est une avenue aussi qui peut être très intéressante là, pour une personne qui a une déficience visuelle. Donc oui, le web aussi est encore un marché avec un potentiel de travail très intéressant.
Monsieur Guérin, merci beaucoup d'être venu nous voir pour vous parler de l'autre côté, du côté du mentor, d'accueillir des jeunes comme ça. C'est absolument extraordinaire. Vous changez des vies quand vous faites ce geste.
Merci, c'est apprécié, puis merci à vous.
Ma prochaine question est pour Ikram. Ikram, je trouve qu'elle a un message extraordinaire hein, depuis tout à l'heure, comment elle entrevoit l'avenir. Ikram, quelqu'un qui nous écoute actuellement et puis qui vit une petite période de découragement, là, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire?
Moi, ce que je dirais à cette personne-là, c'est de un, ne te décourage pas, et pas seulement maintenant, mais jamais. Et si c'est une personne qui a une déficience visuelle, aussi de ne pas se décourager parce qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va arriver, qui va dire, admettons que toi, t'entreprends quelque chose, qui va dire, admettons, t'as une déficience visuelle, tu seras pas capable de le faire. Et c'est pas vrai, parce que si on a la volonté de le faire et qu'on a les outils pour le faire, mais tout est possible. Et c'est ça, faut pas se décourager. Puis peu importe qu'est-ce que les gens nous disent, faut pas y faire attention, parce que les gens, ils se trouvent pas dans la situation que nous, on est. Et ils savent pas c'est comment. Ils sont pas nécessairement au courant des outils. Et ils ne savent pas qu'avec les outils et la volonté, on peut quasiment faire ce qu'on veut. Donc, c'est ça, c'est de ne pas se décourager, de toujours regarder vers l'avant, et que peu importe ce qui arrive, peu importe les moments de découragement ou les moments plus durs, si je peux dire, il y aura toujours une fin et quelque chose de positif au final. Et donc, de juste ne jamais se décourager et de toujours regarder vers l'avant et de voir le positif.
Autrement dit, il y a toujours du soleil au-dessus des nuages.
Exactement.
Qu'est-ce que, dans votre courte vie, vous en avez sûrement eu des moments de découragement? Qu'est-ce que vous avez fait?
Moi, honnêtement, j'ai la chance d'avoir vraiment des amis super, de la famille aussi très supportive, des amis qui sont vraiment là quand j'en ai besoin. Donc moi, c'est surtout de... Ce que je dirais, c'est de s'entourer vraiment de personnes qu'on aime et sur qui on peut compter. Comme ça, lorsqu'il arrive un petit pépin ou un moment de découragement, de savoir qu'on a des gens qui nous aiment autour, à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier nos problèmes et qu'on sait qu'ils seront toujours là pour nous soutenir. Donc moi, ce serait vraiment de compter sur ces personnes-là et de se trouver quelque chose aussi qu'on aime personnellement, pas nécessairement relié aux personnes, mais juste quelque chose qu'on aime, que ce soit faire de la musique, écrire, lire, peu importe, mais se trouver quelque chose pour se donner du courage et de l'espoir et ramener de la joie.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
Je dirais du bon succès dans mes études, pour l'année prochaine surtout, puisque je commence le cégep, et aussi d'éventuellement poursuivre une carrière en droit à l'université.
Un secteur en particulier qui vous intéresse en droit?
Pour l'instant, je ne suis pas encore décidée. Pour le stage avec Maître Boulet, j'ai vu plus l'aspect criminel, puisqu'elle était avocate de la défense. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais comme elle m'a donné un conseil de toujours regarder tous les choix possibles et de ne pas nécessairement se fier sur un, mais c'est-à-dire d'en choisir un, mais de toujours se garder d'autres plans, donc de toujours choisir quelques autres options dans le domaine.
Ikram Nouguira, merci beaucoup d'être
merci
venu
de
nous voir.
Reçu. Merci à tous.
Et bon succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, c'est déjà tout pour notre émission Point de vue, proposée par la Fondation En vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Nous serons de retour la semaine prochaine avec d'autres invités, dont notre marraine Pauline Martin et un membre du personnel de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Ici Michel Poulain.
Diane Felice.
Nous vous souhaitons une excellente semaine.